chapitre 2, Ephésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la grâce. J'ai beaucoup parlé de la grâce. Nous parlons beaucoup de la grâce. Il y a l'Église de la grâce, toutes sortes de grâces. Mais je me demande si nous comprenons vraiment le sens du mot grâce. Il y en a qui ont peur que d'autres en abusent, qu'on abuse la grâce. Il faut souligner tout de suite que lorsque nous parlons de la grâce, nous ne voulons pas dire que Dieu cesse d'être saint. Dieu est saint. Et Dieu dit, soyez saints comme moi, votre Père céleste, je suis saint. Le problème, c'est que nous n'avons pas ce pouvoir en nous, mais Dieu, dans sa grâce, a fait de nous des saints. Dieu ne cesse pas d'être saint, mais il est amour. Il y a quelqu'un qui a dit, il a rencontré une femme prostituée et il a dit à cette femme, pourquoi n'allez-vous pas à l'église? De répondre, la femme a dit, l'église, je me sens déjà assez mal, je ne veux pas aller à un endroit où on va me tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne veut pas aller à un endroit où on va détruire sa vie. C'est pour dire que Dieu nous a sauvés par grâce, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est que Dieu nous donne, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritions, mais il nous donne ce que nous ne méritions pas. Il enlève le châtiment. Non seulement qu'il enlève le châtiment, il nous donne encore plus que le châtiment, il nous donne plus que la grâce de n'être pas puni, mais il fait des dons. C'est comme si Dieu récompense pour une vie sale, une vie de misère, une vie de péché. C'est l'impression que nous avons. C'est que la grâce, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritions, mais il nous donne beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il dit au verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. J'aimerais vous dire tout de suite que Jésus, pendant son ministère terrestre, n'a jamais prononcé le mot grâce. Vous pouvez suivre dans tous ses enseignements, il n'a pas prononcé le mot grâce, pas même une seule fois, pendant 3 ans de son ministère terrestre. Il l'a tout simplement démontré. À chaque occasion, il a démontré la grâce. Dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, il a illustré la grâce. Le pardon accordé à la femme adultère, il a démontré la grâce. Mais il n'a jamais prononcé le mot, mais il l'a vécu. Il était grâce lui-même. La Bible dit qu'il était plein de grâce. Rempli de grâce et de bonté. Donc, dans les 3 premiers versets du chapitre 2, l'apôtre Paul nous donne une idée de ce que nous étions sans le Christ, ce que nous étions sans Christ. Il a souligné trois choses. Au verset premier, nous étions morts dans nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, nous pratiquions le péché et nous avons eu beaucoup de joie à le faire. Nous étions heureux dans le péché. Nous n'avions aucune conscience, aucun sentiment, aucune moralité. Nous étions heureux. Même si parfois, on va se cacher pour les autres, mais au fond, nous aimions le péché. Nous étions heureux là-dedans, dans la poussière, dans la boue. Nous étions bien là-dedans. Et c'est pour cela, lorsque, peut-être pour la première fois qu'on nous a annoncé l'évangile, on n'a pas voulu répondre parce qu'on aimait le péché. C'est ce que l'apôtre Jean nous a dit. Les hommes ne viennent pas à la lumière parce qu'ils aiment les ténèbres. Nous aimions le péché. Nous étions morts là-dedans. Il n'y avait aucune conscience. La deuxième chose qu'il dit, nous marchions autrefois, au verset 2, nous marchions autrefois selon le train de ce monde et selon l'influence du diable, accomplissant les désirs du diable. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous n'accomplissions pas la volonté de Dieu. Nous étions morts dans nos péchés. Nous n'accomplissions pas la volonté de Dieu. Et nous marchions selon le monde pour faire plaisir au monde et pour faire plaisir au diable. Tout ce que le diable aimait, nous la pratiquions. Tout ce que Dieu voulait, nous l'évitions. Parce que nous étions morts. La troisième chose qu'il a dit au verset 3, nous vivions selon les désirs de la chair, selon ce que nous inspiraient nos cinq sens. Donc, nous ne vivions pas la vie de Dieu et nous faisions ce que nos pensées nous dictaient, ce que nos sens nous disaient. Nous étions morts. Donc, nous étions, la Bible a dit que nous étions des fils de désobéissance, de la rébellion. Nous étions des ennemis de Dieu sans Christ, nous étions perdus. Donc Dieu avait toutes les raisons au monde pour nous juger, pour nous condamner et nous détruire. Il avait toutes les raisons au monde pour le faire. Maintenant, au lieu de nous détruire, il a fait quelque chose d'autre. Il a fait quelque chose d'autre. Il a fait de nous des saints et devant ses yeux maintenant, nous sommes irréprochables. Il a fait de nous des saints et à ses yeux, nous sommes irréprochables. Nous qui étions ses ennemis, maintenant il a fait de nous ses fils et ses filles d'adoption. Il nous a pris comme membres de sa famille. C'est comme prendre un ennemi et l'adopter et faire de cet ennemi un membre de la famille. C'est ce que Dieu a fait et nous avons reçu l'adoption. Il nous a acceptés tels que nous sommes. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne nous a pas demandé de nous laver avant. Il ne nous a pas demandé de nous sauver d'abord. Il ne nous a pas demandé d'enlever le vêtement sale du péché. Mais il nous a embrassés tels que nous étions, comme le Père embrassait le Fils prodigue avec l'odeur du porc, du péché, de la boue. Il nous a accueillis tels que nous sommes. Et la Bible dit, au verset 4, parce qu'il est riche en miséricorde. Il est juste. S'il nous condamnait, ce serait justice. Mais il n'a pas agi envers nous selon sa justice. Mais il a agi envers nous selon son amour, selon sa miséricorde. Donc, il nous a sauvés Mais comment est-ce qu'il nous a sauvés? La Bible nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Maintenant, au verset 4, le fondement du salut, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Dans Jean 3, 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a sauvés, non pas à cause de ce que nous sommes ou à cause de ce que nous étions, mais à cause de ce que Dieu lui-même, il est. Dieu est amour. Nous sommes perdus. Nous étions perdus, pécheurs, perdus, sales, laids. Mais Dieu est amour. Et il nous a sauvés à cause de son amour. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos péchés, nos offenses, il nous a rendus vivants. Donc, ce matin, je ne peux pas me glorifier aux dépens de vous. Je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas vous condamner. J'ai reçu le pardon comme vous l'aviez reçu. Vous ne pouvez pas condamner un autre. Parce que nous sommes solidaires, nous étions solidaires dans le péché. Maintenant, nous sommes solidaires dans la grâce. Maintenant, à chaque fois qu'on dit le mot grâce, il y en a qui voient là l'occasion d'accuser Dieu, de dire que Dieu donne l'occasion. D'accuser Dieu, de dire que Dieu donne aux gens une licence pour vivre dans le péché. Les gens n'ont pas besoin de licence pour vivre dans le péché. Ils le font naturellement. Ils ont besoin d'une puissance pour vaincre le péché. Ils n'ont pas besoin de licence pour vivre dans le péché. Ils ont besoin d'une puissance pour vaincre le péché. Et c'est ce que la grâce de Dieu a fait pour nous. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous a appris à vivre, à renoncer à l'impiété. C'est la grâce qui nous donne la force pour dire non au péché. C'est la grâce qui nous donne la force pour dire non au mal. C'est la grâce qui nous donne la force pour le faire, non pas la loi ou nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne la grâce. Maintenant, le salut implique d'abord l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. Le mot miséricorde, c'est éleos en grec. Éleos, c'est la manifestation de la pitié. Quelqu'un qui a pitié pour vous, mais il n'est pas... C'est la manifestation de la pitié. Quelqu'un qui a pitié pour vous, mais il n'est pas resté dans ses sentiments, mais il a posé un acte de pitié. Il a eu pitié. Il n'est pas resté dans ses sentiments, mais il a posé un acte de pitié. Il a eu pitié de moi, de ma misère, de mes péchés. Il a eu pitié de vous. Mais il n'est pas resté pour dire, mais pauvres Gerson, pauvres eux autres. Il a dit, je vais faire quelque chose à cause de ma miséricorde pour sortir ces gens-là de leur misère. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sortir de la misère. Donc, c'est la pitié manifestée. Il a manifesté sa pitié. Donc, c'est de la compassion. Il est rempli de compassion. Donc, Dieu est amour. Et la Bible dit, à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus à la vie. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Tite, 1 Timothée 2, versets 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il dit au verset 3, cela est agréable. Ça veut dire Dieu prend plaisir dans cela. Cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et aussi, j'aimerais vous inviter à lire dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Il dit dans 2 Pierre 3, verset 9, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire que le jugement est là, mais Dieu a suspendu le jugement parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent à la connaissance et au salut. Mais la grâce, non seulement nous pardonne, mais la grâce nous donne la vie. Regardez ce que Paul a dit au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. J'étais mort à la justice. J'étais mort à la moralité. J'étais mort au bien. J'étais vivant au mal, au péché. Et je vivais dans la misère. Mais Dieu m'a rendu à la vie. Maintenant, je suis mort au mal. Je suis mort au péché. Je suis vivant à la justice. Voyez-vous la différence? Je suis vivant maintenant aux choses de Dieu. Je peux apprécier la parole de Dieu. Je peux apprécier la présence de Dieu. Je peux apprécier les enfants de Dieu, les frères et sœurs dans la foi. Et je peux apprécier l'évangile de Jésus-Christ. Je peux même proclamer cet évangile. Je peux même investir dans cet évangile parce que j'y crois. Mais autrefois, j'étais ennemi de Dieu. Et Paul disait, j'agissais par ignorance, mais je détruisais l'église de Dieu. Il était l'ennemi de Dieu. Maintenant, Dieu nous a rendus à la vie. La grâce nous donne la vie. Non seulement que la grâce nous pardonne, mais elle nous donne la vie. Et c'est ce que Paul va faire bientôt. Il va nous encourager à vivre cette vie. Maintenant, remarquez que Paul a dit, lorsque nous étions morts, Dieu nous a rendus à la vie. Lorsque nous étions encore dans nos péchés, Dieu nous a démontré sa miséricorde. Dieu nous a démontré sa miséricorde. Qu'est-ce que c'est que c'est? Dieu nous donne une faveur que nous ne méritions pas. Il fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses fils et ses filles lorsque nous étions encore ses ennemis. J'aimerais vous inviter à lire dans Colossiens 2, verset 11. Là où Paul explique davantage. Colossiens 2. Versets 11 à 13. Colossiens 2, versets 11 à 13. Paul explique davantage qu'est-ce qu'il veut dire. Au verset 11, il dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui par la foi. » En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. Remarquez bien, il nous a rendu à la vie, il nous a fait grâce pour quelques-unes de nos offenses, c'est ce que Paul a dit. Combien de nos offenses est-ce que Dieu a pardonné? Il nous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En Romains 6, verset 3 à 6. Romains 6, verset 3 à 6. C'est bon de lire la parole de Dieu. Romains 6, verset 3 à 6. Il dit, ignorez-vous que vous qui étiez, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a placés en Christ, nous sommes morts avec lui. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a pardonné de toutes nos offenses. En ce sens, ce matin, c'est là qu'il faut comprendre lorsque la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Regardez le contraste, regardez la différence. Autrefois, nous vivions dans le péché, dans la boue, dans la poussière, dans la misère. Regardez qu'est-ce qu'il a fait maintenant. Au verset 6 de Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble avec Christ, mais il ne nous a pas laissés dans la boue, dans la misère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Non seulement qu'il m'a sorti de ma misère, il m'a pardonné toutes mes offenses, mais il ne m'a pas laissé dans cet état de misère. Il m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Quelqu'un a dit, le croyant n'est pas appelé à traîner dans la poussière ou dans la boue ou dans la misère, mais désormais il vit dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans les lieux célestes? Je n'ai aucune idée, ami, parce que c'est profond. Mais je peux quand même essayer. Ça veut dire que la vie de misère que j'ai connue dans le péché, je n'ai plus cette vie. Maintenant, j'ai une vie joyeuse. J'ai une vie victorieuse. J'ai la vie abondante. J'ai la vie. Je n'ai pas une religion. J'ai la vie. Et voyez-vous la différence entre notre foi chrétienne et toutes les autres religions? Toutes les autres religions, il faut faire quelque chose. Il faut payer quelque chose. Il faut donner quelque chose. Mais avec la foi chrétienne, on ne donne rien. On reçoit quelque chose. Nous recevons quelque chose. Nous recevons la vie. Nous recevons une nouvelle identité. Nous recevons une nouvelle position. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a ressuscités et nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. Et comment cela est arrivé? Disons, au verset 7, il dit, pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Dieu va se servir de nous comme une illustration pendant toute l'éternité pour dire que je suis bon. Je suis un Dieu d'amour. Et tous les ennemis de Dieu vont avoir la bouche fermée quand ils vont voir Gerson, le plus vil des pécheurs, se tenir devant le trône de Dieu pendant toute l'éternité pour chanter les louanges et la grâce de Dieu. Ils vont dire, ce Dieu, il est bon. Quand ils vont vous voir, ils disent, oh, cet homme, il est là aussi. Cette femme est là aussi. Ah, Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Et pendant toute l'éternité, toutes les bouches vont se fermer devant l'amour, la grâce, la générosité, la compassion de Dieu. Quand ils vont nous voir, et c'est pour cela que Dieu l'a fait, dans les siècles à venir, ça veut dire que déjà aujourd'hui, les hommes devraient voir combien Dieu est bon. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas? Parce que nous avons reçu la grâce, mais nous refusons d'accorder la grâce. Dieu a pardonné en vous l'impardonnable. Dieu a accepté en vous l'inacceptable. Il ne vous a pas condamné. Il ne m'a pas condamné. Il a accepté en moi l'inacceptable. Parce que j'étais son ennemi, je vivais selon mes pensées, selon le train de ce monde, selon le diable, accomplissant les désirs de la chair. Et il a accepté. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il m'a transformé. Il m'a transformé. Il a renversé le mur qui me séparait de lui. Maintenant, il m'a invité dans son ciel. Je vis avec lui. Mais comment est-ce que nous recevons cela? La Bible dit, c'est par la grâce. C'est par grâce. Dans notre monde aujourd'hui, c'est difficile de comprendre la grâce. Parce que vous travaillez une semaine, on vous donne votre salaire. Une semaine, un mois, on vous donne votre salaire. Vous êtes satisfait ou insatisfait? Mais vous avez travaillé pour ce que vous avez reçu. Il y a un patron qui m'a raconté son expérience, comment il était déçu. Il a eu un employé. Cet homme travaillait pour lui, mais son travail n'était pas vraiment important. Ce n'était pas un travail vraiment significatif pour l'entreprise. Il a voulu être généreux et bon envers ce pauvre homme. Il a créé un poste pour permettre à cet homme de gagner quelques sous. Et quand il a donné le chèque pour la première fois, il s'attendait à ce que cet homme soit reconnaissant. Et que cet homme vienne lui dire, « Merci patron, tu es bon. Oh, comme tu es généreux. » À sa grande déception, Il a reçu son salaire, il a regardé et il est parti sans dire merci. Pourquoi? Il a travaillé. Il est venu au travail chaque jour. Le patron pense qu'il ne méritait pas cela, mais lui, il sait qu'il a travaillé pour cela. Et le pire, c'est que quelques mois après, il a demandé pour une augmentation. Et il était le poison dans ce chantier parce qu'il empoisonnait tous les autres parce qu'il se plaignait parce qu'il ne recevait pas assez. Et finalement, le patron a dit, écoutez, puisqu'il n'a pas compris, je vais le laisser partir. Il a laissé partir. Parce qu'il pensait qu'il a travaillé pour son argent, mais il n'a pas travaillé pour son argent. Parce que dans notre société, tout ce que nous connaissons, c'est qu'on gagne. On gagne son salaire, on gagne son pain. Je mérite le respect. Nous avons l'armée, on donne des grades dans l'armée et on salue celui qui est le plus haut gradé. Et quand nous sommes arrivés à l'église, nous voulons faire la même chose. Nous voulons avoir des grades, des chrétiens à différents niveaux, à différents grades. Ça n'existe pas dans l'église de Jésus-Christ. Parce que tous, nous sommes au même niveau. Nous avons reçu la même grâce. Il n'y a pas de soldat plus haut placé qu'un autre. Nous avons reçu la grâce. Nous devons accorder la grâce. Dieu a accepté en nous l'inacceptable. Nous devrions nous accepter aussi les uns les autres. Et c'est ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un a quelque sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, il a accepté en nous l'inacceptable. Par la foi, non pas par les œuvres. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Votre famille n'est pas assez grande, n'est pas assez noble pour vous gagner le ciel, pour vous gagner le salut. Votre richesse ne suffit pas. Parce que la Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? L'apôtre Pierre nous a dit, ce n'est pas avec de la richesse, avec de l'argent, ni de l'or périssable que Dieu nous a arraché de la vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de son Fils qu'il a fait. C'est par la grâce. Il nous a fait grâce, il vous a fait grâce. On ne travaille pas pour le salut, on ne mérite pas le ciel. On ne gagne pas son ciel. On reçoit tout simplement le pardon de Dieu, le pardon et la grâce de Dieu. Et pour s'assurer que le message soit clair, la Bible dit au verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ce que j'aime avec la grâce. Et c'est pour cela que les orgueilleux ne peuvent jamais accepter la grâce. Parce qu'il n'y a aucun sujet pour l'homme de se glorifier dans la grâce. Il n'y a aucun sujet de gloire. Comment pouvez-vous vous glorifier quand la Bible a dit vous étiez mort? Comment pouvez-vous vous glorifier quand la Bible dit vous marchez selon les trains de ce monde, selon le diable? Oh, moi, selon le diable? Oui, a dit la Bible. Mais où est le sujet de gloire? Il est exclu. Parce que ce n'est pas grâce. Peu importe votre arrière-plan, votre position sociale, ça n'a rien à voir avec votre salut. Mais ce n'est pas grâce. Pas grâce. Et il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Depuis que je commence à prêcher la grâce, j'ai beaucoup plus d'ennemis maintenant et surtout parmi les gens religieux que j'en avais avant. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les gens aiment se faire dire qu'ils sont grands. Qui sont bien. Mais ils n'aiment pas entendre dire qu'ils ont fait faillite. Moralement, spirituellement, vous avez fait faillite. C'est une mauvaise nouvelle. On n'aime pas ça. On raconte l'histoire d'un prêtre français. Il célébrait les funérailles de Louis XIV, qu'on appelait aussi Louis le Grand. Au funérail de ce grand homme, pour illustrer la grandeur de cet homme, ils ont décoré la cathédrale, ils ont éteint toutes les lumières de la cathédrale. Ils ont allumé une bougie, tout simplement, aux côtés du cercueil de ce grand roi pour que tous les regards soient fixés sur cet homme. Lui le grand. Et on dit, le prêtre, il est arrivé avant de commencer la cérémonie. Il a pris la lampe allumée. Il a éteint. Il dit, pas que mon qui est grand, c'est seulement Dieu qui est grand. Mais tout le monde en fait noir. Pas que mon qui est grand, c'est seulement Dieu qui est grand. J'ai éteint. Et j'ai prêché le message en fait noir. Pour tout le monde connaître, c'est seulement Dieu qui est grand. C'est ça le problème avec la grâce. L'homme ne peut pas se glorifier de la grâce. Je ne peux pas m'élever au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de moi. Nous sommes tous unis, solidaires, égaux, dans la grâce. Dans la grâce. Alors il dit, ce n'est point par les œuvres, mais il nous a sauvés pour des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais Dieu nous a sauvés pour des œuvres. Regardez ce qu'il a dit au verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que maintenant que j'ai la grâce, je ne peux pas m'asseoir sans vivre cette grâce. Et comment est-ce que je vais vivre cette grâce? C'est en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour moi d'avance. Et c'est ce que Paul nous dit en Romains. Autrefois, vous avez livré vos membres comme instruments d'iniquité, instruments d'injustice. Maintenant, livrez vos membres comme des instruments de justice. Servez Dieu. Il faut servir le bien maintenant. Il faut se tenir pour ce qui est bien. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Il faut se tenir pour ce qui est bien, pour ce qui est juste, pour ce qui est agréable. Autrefois, je me battais pour ce qui était mal. Maintenant, je suis lumière dans le Seigneur. Je dois me tenir pour ce qui est bien. Et combien de fois nous avons tourné les regards pour ne pas voir l'injustice, pour ne pas prendre position pour ce qui est juste, pour ne pas secourir le malheureux, pour ne pas accorder grâce à ce pécheur. Il s'est passé quelque chose cette semaine qui m'a brisé le cœur. Cela m'a brisé le cœur. Il y a un étudiant en théologie, et il a commis un acte répréhensible, condamnable même. Parce qu'il a trompé sa femme. Normalement, cet homme ne devrait pas continuer dans son ministère. Il ne devrait pas continuer ses études. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment le faire. Comment le faire? Alors son pasteur a été trouvé un autre pasteur pour solliciter de l'aide parce que l'autre pasteur est un conseiller, donc il a besoin d'aide spirituelle pour cet homme et c'est le travail de cet autre pasteur. Il est allé trouver l'autre pasteur pour solliciter de l'aide pour cet étudiant en difficulté spirituellement. La première chose, c'est que le pasteur a refusé d'aider l'étudiant. Probablement, il l'a considéré trop vil pécheur qui ne méritait pas une deuxième chance, ne méritait pas la grâce. Même la grâce de l'aider spirituellement, il a refusé de l'aider. C'est déjà mauvais. Mais le pire, c'est qu'il est allé à son école. Il a rapporté cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait rencontrer cet homme et comprendre la situation. Le conseiller a écrit une lettre à son école pour fermer son dossier à cause de son péché. Cela allait lui accorder la chance au moins de sortir dans cette situation embarrassante et ne pas avoir vraiment à faire face à l'humiliation, au rejet et à la condamnation. Mais cela allait lui accorder la chance de trouver de l'aide. Mais il a dénoncé cet étudiant et on l'a jugé, il a été humilié. Tandis que l'étudiant pouvait lui-même fermer son dossier. Et l'école devrait prendre cet étudiant en charge, travailler avec lui pour le sortir de sa misère spirituelle. L'Église devrait le prendre en charge. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ils l'ont rejeté. Savez-vous que l'Église, c'est la seule armée qui tue ses soldats blessés? Qu'est-ce que nous faisons de la grâce de Dieu? Comment est-ce que nous nous traitons les uns les autres? C'est quoi la grâce, ami? C'est Dieu qui nous donne une deuxième chance. C'est ça la grâce. Dieu nous donne une deuxième chance. Voilà ce que nous étions, mais Dieu a décidé de nous donner une deuxième chance. Il a réuni toutes les conditions pour que nous réussissions dans notre vie spirituelle. Il a pardonné nos péchés, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a adoptés, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes pour que nous vivions maintenant. Il nous donne une deuxième chance. Allons-nous accorder une deuxième chance les uns aux autres? Ça ne veut pas dire qu'on encourage l'autre à demeurer dans ses péchés. Le péché est mauvais. Le péché tue. Le péché détruit notre relation avec Dieu. Quand on a un péché dans sa vie, on ne peut même pas prier. Le péché n'est pas une bonne chose, mais le pécheur a besoin d'aide. Et pendant mes 8 années ici, j'ai essayé. J'ai essayé de transformer cette église à une église où la grâce et non seulement prêcher, mais où on vit la grâce. Où on ne condamne pas, mais on aide. Ma plus grande joie comme pasteur, c'est de voir que les membres de cette église, ils n'ont pas peur de me raconter leur situation. Peu importe le problème, ils sont libres de venir vers moi pour me dire, pasteur, je suis dans cette situation. Jamais je ne condamnerai un membre, un enfant de Dieu. Je ne condamne pas. Mais la chose qui est certaine, une fois informé de cette situation, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais m'impliquer dans votre vie. Je vais impliquer d'autres personnes dans votre vie, mais je ne vous condamne pas. Mais je sais que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation. Et c'est comme ça que cela devrait être pour chacun de nous dans cette église. Quand on connaît un problème, la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul. Ne pas amener toute l'école avec toi pour que tous les étudiants soient informés de la situation, mais va, reprends ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends une autre personne avec toi afin que l'affaire se passe entre deux personnes. S'il ne coûte pas deux personnes, il faut prendre une troisième personne. Pourquoi? Parce que Dieu tient à notre réputation. Il tient à notre réputation. Parce que ce que le diable veut, c'est le scandale. En scandalisant un frère ou une sœur, il a scandalisé toute l'église et tout l'évangile. Et Dieu veut éviter le scandale. Il dit, fais-le en privé, prends une personne, prends deux personnes, prends trois personnes. Maintenant, si cette personne se ferme totalement, la Bible dit qu'il faut considérer maintenant cette personne comme un païen. Il faut le juger pour que tout le monde sache que l'Église n'a rien à voir avec, à faire avec cet homme ou cette femme. C'est fini. On a tout fait. Mais avant de rompre toute relation, la Bible dit qu'il faut entreprendre les démarches pour s'assurer que cet homme est récupérable. Cette femme, on peut récupérer cette femme, cet enfant de Dieu. Mais très souvent, l'Église scandalise, avilise les gens. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Quelle est donc l'immensité de cette richesse de Dieu? Infiniment riche. Infiniment riche.
En sorte que Paul puisse dire, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Dieu est infiniment riche. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, combien est-ce qu'il nous a aimés? Infiniment. À cause de ce grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie. Amis, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes maintenant vivant. Vous êtes vivant. Étant vivant, vous ne pouvez pas vivre encore dans les ténèbres. Dieu a fait provision de toutes sortes de grâces pour vous afin de vivre une vie victorieuse, afin de vaincre le péché et même de vaincre le mal. Alors ce matin, non seulement que nous avons accepté le salut de Dieu par la foi, la Bible dit maintenant, je dois vivre par la foi. Chaque jour, j'ai les regards fixés sur Dieu. Pas à pas, je suis le Seigneur. Et c'est là le problème, ami, c'est que une fois sauvé par grâce, je pense que je peux maintenant faire ce que je veux, je peux faire mon chemin sans Dieu. Ça ne marche pas. Maintenant, je vis pour Dieu. Vivons pour le Seigneur. Marchons, comme a dit l'apôtre Paul, en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse.